Le courage rayonne la force. Les fêtes de fin d'année sont un moment propice pour répandre la bonne humeur de Dieu à tous. Qu'est-ce qui rend cette période festive si attrayante pour tant de gens, même les non-croyants? Franchement, parce qu'elle offre le répit que tout le monde recherche dans ce monde fou. La chaleur comme répit contre le froid. La lumière comme répit contre l'obscurité. L'abondance comme répit contre la pénurie. La générosité comme répit contre l'avarice. L'amitié comme répit contre l'inimitié. La fraternité comme répit contre la solitude. L'accueil comme répit contre le rejet. La douceur et la légèreté comme répit contre la morosité et le pessimisme. En résumé, cela annonce la bonne nouvelle que nous attendons tous, appelée joie. Cela devrait suffire à rendre une personne joyeuse, n'est-ce pas? Vous avez peut-être déjà entendu le vieil adage « tout dégage quelque chose ». Avez-vous déjà réfléchi à ce que dégage une personne joyeuse? Peut-être n'avez-vous jamais pris le temps de réfléchir à l'impact qu'une personne joyeuse a sur vous. Vous avez peut-être même été tenté de penser qu'elle était quelque peu inconsciente. Sa positivité peut sembler si naturelle que vous ne réalisez peut-être même pas qu'elle vous influence, mais c'est le cas, et d'une manière très saine et réparatrice. Avez-vous déjà connu quelqu'un de joyeux? Comment décririez-vous son visage? Heureux? Content? Joyeux? Rayonnant? Comment décririez-vous son cœur? Joyeux? Optimiste? Imperturbable? Serein? Selon vous, quelle était la raison de sa joie? Sa concentration sur Dieu, le souci des autres, la confiance en la providence divine, la confiance en la protection de Dieu. Quelle a été votre réaction face à sa gaieté? La satisfaction, l'étonnement, admiration, envie d'être en sa compagnie? Pourquoi, selon vous? Parce que vous ne vous contentez pas de l'observer, vous recevez quelque chose de lui. Qu'est-ce que ce quelque chose? Tout cela peut se résumer en un mot, la force. Que nous en soyons conscients ou non, nous puisons tous notre force dans les personnes joyeuses que nous connaissons. À l'insu de beaucoup, et sous-estimé par la plupart, il existe un lien entre la joie et la force. Les enfants d'Israël ont fait l'expérience de ce renouveau et de cette régénération lorsqu'après plusieurs générations d'errance dans le désert spirituel, ils sont revenus sous la conduite d'Esdras et de Néhémie à la pratique de la loi de Dieu telle qu'elle avait été donnée à l'origine. Dans Néhémie 8, le peuple s'était rassemblé et s'apprêtait à rétablir l'observance des fêtes que Dieu avait initialement établies à l'époque de Moïse. Il était tout à fait approprié que la fête des tabernacles soit la première fête de ce type qu'ils observaient. Également connue sous le nom de fête de la moisson, la fête des tabernacles célébrait la dernière récolte à la fin de l'année agricole, de sorte qu'il y avait beaucoup d'abondance à partager à table. Également connue sous le nom de fête des tentes, la fête des tabernacles était l'occasion de se souvenir de la protection de Dieu envers Israël, pendant son errance dans le désert, alors que tout ce qu'il avait, c'était des habitations de fortune, représentées par les abris ou les tentes qu'il devait construire pour la fête. Néhémie 8, verset 10. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. » Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Cette célébration ne concernait pas seulement leur nourriture physique, mais aussi leur nourriture spirituelle, car sous la direction d'Esdras et de Néhémie, ils avaient redécouvert les Écritures et avaient appris à les comprendre dans leur propre langue. Quelle raison de se réjouir et de crier de joie sans retenue! La joie de l'Éternel était véritablement devenue leur force. Lorsque nous apprenons à faire confiance au Seigneur et à compter sur lui pour notre subsistance et notre protection, nous réalisons que le Seigneur est la véritable source de notre joie. Où réside la joie? En vous, pas autour de vous. Que dégage la joie? De la chaleur et de la lumière. La joie rayonne. Un cœur joyeux se reflète dans un visage radieux. Pendant que vous ouvrez votre Bible au chapitre 15 du livre des Proverbes, écoutez-moi lire deux autres versets. Job 9, verset 27. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage. Et psaume 34, verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Maintenant, lisons ensemble dans le chapitre 15 du livre des Proverbes, au verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Cœur joyeux, visage serein. Je peux adhérer à ce programme. Proverbes 15, 30 nous dit « Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. » Il y a quelque chose d'immensément attirant dans un regard qui brille de joie. On sent qu'il y a là quelque chose qui déborde et qui nous donne envie d'y prendre part. Et c'est normal. La joie est une invitation qu'il ne faut pas refuser. En parlant d'invitation, Dieu compare le fait d'avoir le cœur content à participer à un festin perpétuel. Voilà une bonne façon de se souvenir dans cette vie. Proverbe 15, 15, « Mais le cœur content ou gai est un festin perpétuel. » Aimez-vous manger? Si toutes les contraintes physiques et matérielles étaient levées, combien d'entre vous aimeraient manger tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils aiment, aussi longtemps qu'ils le souhaitent? C'est cela, être joyeux, un festin perpétuel. Le jour de l'action de grâce, 365 jours par an. La joie est comme la nourriture. Pour être nourri, nous devons ingérer quelque chose. La joie ne peut venir de l'extérieur, elle ne peut venir que de l'intérieur. Psaume 104, verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Le vin, l'huile et le pain représentent l'effet salutaire des bons produits de la terre de Dieu sur notre corps physique. De la même manière, la gaieté apporte le bonheur, ce qui est bénéfique pour notre vie spirituelle et émotionnelle. Être de bonne humeur rend notre cœur joyeux, notre visage rayonnant et notre cœur fort. Cela me semble être un mode de vie sain. Parlons un peu maintenant de la santé et du courage. Il existe un lien indéniable entre notre alimentation, notre force et notre santé. Considérez l'effet du message d'encouragement de Paul à ses compagnons de voyage qui craignaient le naufrage. Actes 27, verset 34. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, votre force, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Lorsque nous mangeons, notre corps se renforce. Lorsque nous partageons la bonne humeur, notre cœur se renforce. L'importance d'un message joyeux est soulignée davantage dans les Proverbes. Proverbes 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Revenons au chapitre 15 du livre des Proverbes. Nous voyons ici qu'un message joyeux délivré par un messager joyeux fortifie tout notre être. Proverbes 15, 30. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Lorsque nous sommes joyeux, nous diffusons un message positif qui résonne et touche les autres au plus profond d'eux-mêmes, favorisant ainsi une bonne santé, tant émotionnelle que physique. Le chapitre 17 nous propose une vérité similaire à méditer. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Notre squelette est ce qui soutient tout notre corps. Quiconque s'intéresse à l'actualité a probablement entendu parler des effets néfastes de l'ostéoporose ou fragilisation des os. Mais avons-nous beaucoup lu sur les effets bénéfiques d'un cœur joyeux sur notre constitution physique? Pourtant, la joie est un remède que Dieu lui-même approuve. La vigilance et la joie. Un aspect souvent méconnu de l'attitude joyeuse est son lien avec la vigilance. Les débuts de l'Église à Jérusalem, bien que marqués par une persécution incessante, n'étaient pas encore bouleversés par la violence. Les menaces d'emprisonnement étaient mises à exécution, mais sans perte de vie humaine. Tout cela a changé lorsqu'Étienne a été martyrisé. Puis, environ 7 ans plus tard, Hérode a exécuté Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean. Imaginez quel choc la mort de Jacques a dû être pour les croyants. C'était le premier massacre de l'un des 12 apôtres originaux et l'un des plus éminents. Pour aggraver encore la situation, Hérode captura Pierre et le mit en détention en vue d'une exécution imminente. C'est dans ce contexte que nous voyons les croyants se rassembler pour prier sans relâche, implorant Dieu pour le bien-être à la libération de Pierre. Les intercessions étaient faites dans la maison de Marie, mère de Jean-Marc, une femme qui était la cousine de Barnabas et apparemment une veuve aisée. Étonnamment, c'est sous la contrainte de ces menaces qu'un ange du Seigneur est venu chercher Pierre et l'a fait sortir de prison au milieu de la nuit. Cette évasion était si inattendue que Pierre lui-même crut qu'il s'agissait d'un rêve. Ce n'est qu'après que l'ange l'eut conduit hors de la ville et eut soudainement disparu que Pierre comprit que ce qui lui était arrivé. Sa première pensée fut alors de se rendre à l'endroit où il était sûr que les croyants étaient réunis pour prier pour lui, la maison de Marie. Nous ne savons pas si les 10 autres apôtres étaient avec eux cette nuit-là. Actes 12, 13. Il, Pierre, frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, « Annoncez-le à Jacques, le frère du Seigneur Jésus, et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Une personne se distingue dans ce récit, comme la véritable sentinelle de Dieu et ses rodes. Servante probablement amenée à Jérusalem depuis la propriété familiale à Chypre, elle n'avait aucun statut social. Personne n'aurait pensé qu'elle était la personne la mieux préparée ce jour-là, mais c'était pourtant le cas. Pensez un instant au coup frappé à la porte cette nuit-là. Comment pensez-vous que la garnison a capturé Pierre? Peut-être en frappant à la porte? Au milieu de la nuit? Si vous aviez été un croyant réuni à cette réunion de prière de minuit, dans ces circonstances, quelle aurait été votre première réaction à ces coups frappés à la porte? Une réaction humaine typique aurait été au minimum une légère appréhension, voire un nœud à l'estomac. Quelle a été la réaction de la joyeuse Rhodes? L'exaltation! Oh mon Dieu, c'est Pierre! Je n'arrive pas à y croire! On comprend facilement pourquoi les autres ont pu penser qu'elle était un peu folle. Il n'était pas aussi enraciné et ancré dans la foi qu'elle. Outre sa bonne humeur et son courage, quelles sont les autres qualités divines qui distinguaient Rhodes? Rhodes écoutait. Elle écoutait attentivement toutes les prières que l'on adressait à Dieu. Elle était alerte et prête à entendre quelqu'un frapper à la porte. Elle a reconnu la voix de Pierre lorsqu'elle a entendu. Rhodes attendait. Elle savait que le groupe réuni dans la maison ce soir-là priait pour une raison, et elle s'attendait pleinement à ce qu'ils reçoivent une réponse de Dieu. Elle ne se concentrait pas sur la gravité du défi, mais sur l'attente de la délivrance. Rhodes était optimiste. Son optimisme persistant s'est transformé en une joie inébranlable lorsqu'elle a réalisé que ses attentes profondes étaient désormais devenues réalité. Elle a pu reconnaître que c'était Pierre à la porte parce qu'elle ne doutait pas de la capacité de Dieu à surmonter tous les obstacles. Rhodes était résolue. Imperturbable face aux accusations portées contre elle par des croyants incrédules, elle a refusé de se laisser intimider. Sûre de ce qu'elle avait vu et entendu, elle ne l'aurait réfuté pour personne. En bref, Rhodes est restée joyeuse face à des circonstances effrayantes, prouvant ainsi à quel point elle était forte. C'est peut-être pour cela que Dieu a choisi de la mentionner nommément dans ce récit. C'est la seule mention de Rhodes dans la Bible. Le nom Rhodes signifie « rose », un joli nom pour une personne adorable. Elle a peut-être été méprisée par ses maîtres et ses aînés, mais elle ne s'est pas laissée abattre. Elle a finalement été réhabilitée en tant que seule personne prête à accueillir Pierre lorsqu'il est apparu de manière si miraculeuse et inattendue. Diriez-vous que Rhodes était joyeuse? Diriez-vous qu'elle était forte? Ses actions en disent long. L'ange n'était pas le seul envoyé par Dieu pour réconforter Pierre cette nuit-là. Puissions-nous avoir une Rhodes joyeuse qui nous attend pour nous accueillir lorsque nous rentrons du froid dans la nuit sombre de l'âme? Quelle servante, quel comité d'accueil! Nous devrions aspirer à faire de même dans notre marche avec le Père Céleste. La nuit de la naissance de Jésus, nous voyons d'autres sentinelles pieuses qui avaient de grandes raisons de se réjouir. Les bergers de Bethléem, en Luc 2. Et comme Rhodes, ils n'ont pas manqué le plus grand événement de la journée. Les anges qui sont apparus aux bergers impatients leur ont apporté une bonne nouvelle, le sujet d'une grande joie que Dieu avait préparée pour tout le peuple. Luc 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Qu'est-ce qui rendait cette bonne nouvelle si exceptionnelle? Verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Le sauveur qui allait leur naître ne serait pas seulement le Christ, il serait aussi leur Seigneur. Quel message pourrait apporter plus de joie que celui-là? En effet, avec la venue du Christ, Dieu a donné à son peuple l'amour, la lumière, la paix, la joie, l'espérance, la subsistance et la santé. Tout ce que nous avons aujourd'hui provient de l'œuvre de notre Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Nous aussi, nous pouvons vraiment prendre courage et nous réjouir maintenant et pour toujours.